Bonsoir et merci de votre invitation. Merci à tous aussi d'avoir bravé les intempéries pour venir jusqu'ici. Vous l'avez vu, on a eu pas mal de soucis techniques, mais apparemment ça a l'air d'être résolu et ce micro-là fonctionne. Donc vraiment tout va bien, la science progresse. Pour faire une très rapide présentation, en fait je me définirais davantage comme un spécialiste des conflits armés en Afrique subsaharienne, plutôt anglophone d'ailleurs, qu'un spécialiste de l'islam, mais en fait assez vite. J'étais dans les années 90 en poste au Kenya pour travailler sur les questions de réfugiés. Et en réalité, assez vite, mon chemin de politiste travaillant sur les conflits m'a amené à m'intéresser aussi aux questions islamiques qui étaient fondamentales pour comprendre ce qui se passait en Somalie, avant même l'apparition de ce qu'on appelle les Shebab, et on va y revenir tout à l'heure, et même sur la question des réfugiés soudanais, du Soudan. J'ai eu par exemple l'occasion de m'entretenir avec quelqu'un qui est assez connu, qui s'appelait Hassan El Tourabi, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était le leader des frères musulmans du Soudan, ou des frères musulmans à la soudanaise, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais qui était... ah, voilà, la technique nous a de nouveau lâché. Bon, bah, écoutez... ah, il faut un mot de passe. Ouh là là. Ouais. Donc oui, Hassan El Tourabi au Soudan, qui à l'époque était décrié comme le pape du terrorisme, hein, c'est lui qui avait accueilli Oussama Ben Laden au Soudan avant que celui-ci parte en Afghanistan avec la suite que l'on connaît. Pour ce qui est de Boko Haram, en fait je travaille sur le Nigeria depuis la fin des années 80 et j'ai commencé à m'intéresser à ce groupe avant même qu'on l'appelle Boko Haram, parce que c'est jamais qu'un surnom, en 2005. Hein, donc c'était bien avant l'affaire de l'enlèvement des filles de Chibok, avant la grande répression de 2009, qui a aggravé la situation. Donc vous voyez, je ne suis pas exactement un spécialiste de l'islam, et à ce titre, je suis très reconnaissant à l'ISN de faire preuve d'ouverture d'esprit pour inviter quelqu'un qui est plutôt d'abord spécialiste des conflits armés, mais qui s'intéresse aussi, évidemment, aux questions islamiques. Alors, je vais vous parler essentiellement de groupes djihadistes en Afrique subsaharienne, essentiellement à partir de trois noyaux les plus importants en Afrique subsaharienne, à savoir la nébuleuse, et je parle bien de nébuleuse d'ACMI, Al-Qaïda Maghreb Islamique, disons autour de la région du nord Mali, la nébuleuse Boko Haram autour de la région du lac Tchad, ça part depuis le Nigeria, et la nébuleuse des Shebab dans la corne de l'Afrique, disons essentiellement dans le sud de la Somalie, mais ça rayonne aussi sur les pays voisins. Donc j'ai mis cette carte très générale. Je ne vous parlerai pas du tout de l'Algérie ou de la Libye. D'ailleurs, c'est en dehors de mon champ de compétences. Donc là, je vous parle de pays où j'ai fait du terrain. J'ai fait des entretiens, soit avec des combattants, des salafistes, des non-salafistes, des soufis, etc. On aura peut-être l'occasion de revenir un peu sur les questions de méthodologie également. Mais je vous parlerai vraiment des questions de djihad dans l'Afrique sahélienne subsaharienne. Hein. Alors vous voyez tout de suite sur cette carte, je crois que ça apparaît de façon assez évidente, pour ce qui est d'ACMI, dont une partie venait du GSPC algérien, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, les connexions avec le monde arabe sont assez évidentes hein, dans la trajectoire, et puis ça se voit aussi sur la carte finalement, on est beaucoup plus en prise sur l'Afrique du Nord. Quant au Shebab de Somalie, bah, vous voyez la corne de l'Afrique, hein, il n'y a que la mer Rouge à traverser pour arriver sur la péninsule arabique, le Yémen, l'Arabie saoudite. Donc là aussi, on est dans des genèses de groupes qui sont plus en prise sur le monde arabe, contrairement au cas de Boko Haram, qui de ce point de vue est assez différent. Néanmoins, quoi qu'il en soit de ces différences, mon propos central sera effectivement de s'interroger sur le caractère local ou global de ces insurrections djihadistes. Et en fait, mon propos, pour essayer de le faire le plus simple possible dans le temps qui m'est imparti, je vais d'abord soutenir devant vous que finalement les dynamiques locales sont plus importantes que les influences globales, d'où la nécessité de déconstruire le discours dominant sur ces groupes, qui justement les projettent à chaque fois en relation avec le monde arabe, comme si les Africains noirs étaient incapables de s'insurger par eux-mêmes. Et le deuxième message important, au moins les deux messages que j'aimerais faire passer quand vous ressortirez de cette salle tout à l'heure, c'est que finalement le religieux n'est qu'un facteur parmi d'autres des révoltes de type djihad. djihadistes. Hein. On a souvent une obsession dans le cadre de la guerre, entre guillemets, contre le terrorisme, sur la question de la radicalisation religieuse. Et du coup, on a oublié des types d'analyses qu'on avait du temps de la guerre froide sur les groupes insurrectionnels. Je pense que ces groupes qualifiés de djihadistes méritent effectivement des analyses qui dépassent le seul cadre religieux, d'où aussi la nécessité de relativiser le rôle du wahhabisme, qui est, disons, la doctrine d'État du royaume saoudien. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le débat qu'on va aborder aujourd'hui n'est pas simplement un débat académique. C'est pas simplement une querelle entre chercheurs pour savoir si ces groupes djihadistes sont d'abord locaux ou bien si le global détermine si finalement c'est Al-Qaïda ou bien Daesh, l'État islamique, qui aurait implanté ces groupes dans l'Afrique sahélienne. Non, c'est aussi un débat politique. Parce que la façon dont on perçoit ces groupes, la façon dont on les comprend, va aussi déterminer le type de réponse qu'on va y apporter, y compris dans la militarisation des réponses. Donc c'est un vrai débat qui a des enjeux politiques, y compris dans les engagements militaires de la France, vous le savez aujourd'hui, avec l'opération Barkhane, ou bien ce qu'on appelle le G5 Sahel, qui est censé prendre la suite et qui réunit 5 pays francophones de la zone Sahel occidental. Et le récit dominant, de ce point de vue, nous présente ces groupes comme étant connectés, interconnectés entre eux, connectés à un djihad d'ampleur globale, une menace d'ordre planétaire, et dans le cas de l'Afrique, à ce moment-là, de présenter ces groupes comme étant un problème importé en provenance du monde arabe. Quitte à, et c'est ça mon gros souci, quitte à nier les dynamiques locales, qui sont pourtant, selon moi, beaucoup plus importantes, puisque je m'attacherai à vous démontrer qu'on ne peut pas comprendre l'émergence de ces groupes djihadistes si on fait abstraction de la demande de justice sociale, y compris à travers la charia, si on fait abstraction de la corruption de la classe dirigeante, qui est vue comme un impie. Hein, et là, effectivement, l'islam sert aussi à légitimer des révoltes sociales contre des gouvernements corrompus. Et si on fait aussi abstraction de la brutalité de ce qu'on appelle en Afrique les corps habillés, donc armée, police, gendarmerie, ces forces de répression qui ont aussi très largement contribué à nourrir et légitimer ces djihads. Et un des soucis que pose cette théorie du djihad global, c'est que souvent elle procède par amalgame. Hein. Il y a une espèce de mythe, une espèce de complot islamiste de type wahhabite. Et décidément, je crois que je vais jongler avec ton ordinateur, mais à chaque fois, il faudra remettre. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Merci pour votre patience. l'idée qu'il y a quelque part un complot, une connexion qui se fait avec des ambitions à l'échelle planétaire, une connexion forte et stratégique entre ces groupes, et ce récit d'une menace globale sert les intérêts de toutes les parties prenantes de la guerre contre le terrorisme. C'est donc, il y a là un récit dominant, et ça c'est un point très important sur lequel je voudrais insister, c'est qu'effectivement, toutes les parties prenantes à la guerre contre le terrorisme dans la zone sahélienne de l'Afrique ont intérêt à projeter l'image d'un djihad global, c'est-à-dire d'une menace d'ampleur planétaire. Pour les dirigeants des pays en développement, c'est fort utile. Autrefois, des régimes autoritaires avaient utilisé la menace communiste pour obtenir un soutien militaire et financier des pays occidentaux. Aujourd'hui, il y a la menace djihadiste qui l'a remplacée. Ça permet de justifier la répression de leurs opposants. Ça permet de réclamer une aide militaire. Ça permet de s'avancer sur la scène diplomatique. En se présentant comme un gouvernement absolument indispensable pour lutter contre la menace djihadiste. Ça permet aussi de se défausser de ses propres responsabilités face à des problèmes qui seraient prétendument importés de l'étranger. La lutte contre le terrorisme de type djihadiste, c'est vraiment un alibi fort pratique pour des régimes connus pour leur caractère démocratique, comme celui d'Idriss Déby au Tchad, qui est au pouvoir par la force des armes depuis 1990, qui est devenu notre grand allié dans la lutte contre Acmi au nord du Mali. Donc on a un petit peu tendance, du coup, à fermer les yeux, en tout cas au niveau des gouvernements qui se sont succédés à l'Élysée, sur les violations des droits de l'homme commis par le gouvernement tchadien, sur le détournement de la manne pétrolière. Vous êtes des contribuables français comme moi. Il faut quand même que vous sachiez qu'aujourd'hui, c'est nous qui payons les fins de mois des fonctionnaires de la République tchadienne parce que l'argent du pétrole a été détourné. Mais ça, évidemment, on ne le dira pas trop fort parce qu'effectivement, Idriss Déby est aujourd'hui présenté comme un allié absolument indispensable dans la guerre contre le terrorisme djihadiste au Sahel. Ça vaut aussi d'ailleurs pour des régimes comme celui Paul Biya au Cameroun, autre régime extrêmement démocratique au pouvoir depuis 1982. Et là aussi, bah, ma foi, les critiques sur la nature de ces régimes sont passées sous silence. Élodie, je te remercie de me refaire ce petit truc. Ça va être vraiment compliqué s'il y a un technicien qui peut régler ça. Mais bon, on va essayer de jongler comme ça. Les djihadistes eux-mêmes, c'est un peu le paradoxe, ont eux aussi intérêt à grossir la menace qu'ils représentent. Pour des raisons bien évidentes. Ça permet d'affirmer leur omniprésence, ça permet de surestimer leur capacité de nuisance, ça les fait apparaître comme plus importants qu'ils ne le sont réellement, et qui n'a pas envie d'apparaître comme plus important qu'ils ne l'est réellement. Moi aussi, ça me plaît bien. Hein. Ça permet de valoriser leur pouvoir médiatique. Donc eux aussi embrayent sur ce discours d'une menace globale avec des groupes insurrectionnels qui seraient connectés entre eux. L'intérêt pour les gouvernements occidentaux, bah, c'est aussi de légitimer, légaliser la militarisation de leur réponse au terrorisme de type djihadiste au Sahel et de leurs interventions à l'étranger, en se référant en l'occurrence au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, hein, qui effectivement autorise des interventions militaires à l'étranger en se référant à une menace contre la paix mondiale. Si vous dites que vous intervenez au Mali juste pour vous disputer contre quelques bandes de trafiquants de drogue ou d'armes, ça ne le fait pas. Si en revanche vous dites j'interviens au Mali parce qu'il y a une menace djihadiste qui risque d'embraser l'ensemble de la région et que ces groupes un jour pourraient être amenés à commettre des attentats en France, là oui, effectivement, vous pouvez utiliser et vous référer au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Je dois dire que les services de sécurité, qu'ils soient publics d'ailleurs ou privés, ont eux-mêmes intérêt, c'est un marché, hein, celui de la sécurité. Donc on a aussi intérêt à présenter cette menace comme globale et nécessitant des budgets plus importants. Rappelons-nous qu'au moment où la France intervenait dans le nord du Mali, à la même époque, on négociait le livre blanc de la défense, hein, et il était question, pour des raisons d'économie, des raisons financières, de supprimer les bases militaires permanentes de la France en Afrique subsaharienne. À ce moment-là, il y a eu le déclenchement de l'opération Barkhane, donc cette affaire a été balayée, et aujourd'hui, plus personne ne demande à ce que l'armée supprime ses bases militaires. Voilà. Alors, qu'en est-il vraiment sur le terrain ? D'après ce que je peux en savoir, parce que vous pouvez bien imaginer qu'il y a d'énormes disputes, y compris dans le monde académique, sur la réalité de cette menace djihadiste. Est-ce qu'elle aurait d'abord un caractère global ou local ? Ce qu'on en sait, oui, il y a des contacts individuels entre djihadistes de Boko Haram, avec des chebabs de Somalie, je vous montrais tout à l'heure la carte, avec des gens d'Acmi au nord du Mali. Mais pour autant, on n'a jamais pu prouver qu'il y avait la moindre coordination tactique et qu'il y aurait un agenda politique commun. Car ce sont les agendas locaux qui vont déterminer le sens de la lutte. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a très peu d'échanges de combattants, d'armes et de fonds. Il y a eu quelques échanges, mais fondamentalement, ces groupes sont engoncés dans des terroirs locaux, c'est là qu'ils recrutent. Pour les armes, par exemple, dans le cas de Boko Haram, mais je ne vais pas trop aborder ça parce que Élodie nous en dira un mot tout à l'heure, mais dans le cas de Boko Haram, l'essentiel des armes ne provenait pas du tout de Libye. Il était saisi sur les stocks de l'armée nigériane qui décampait quand elle était attaquée et qui décampait, entre autres, parce qu'elle est extrêmement corrompue. Peu d'échanges de combattants, il y a de la transhumance de mercenaires au Sahel. Donc vous avez des Nigérians musulmans qui ont pu vendre leurs services dans différents combats qui ont agité le Sahel, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient envoyés par exemple par Boko Haram et qu'ils répondaient aux ordres et à une stratégie de Aboubakar Shekau qui est présenté comme le leader du groupe. Des échanges de fonds. Il faut voir que l'économie politique de ces groupes, elle ressort d'abord de la razzia, hein, d'abord de la prédation locale. C'est ça qui fait d'abord vivre ces groupes. Alors il y a pu y avoir un petit peu d'argent qui a circulé en provenance d'Al-Qaïda, ou bien un tout petit peu de ISIS, dit-on, enfin de Daesh, excusez-moi, l'État islamique, l'organisation État islamique, pour reprendre l'appellation officielle en France. Mais de ce qu'on en sait, c'est vraiment des sommes dérisoires. C'est pas avec ça que vous faites tourner la boutique, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Et c'est pas avec ça que vous allez pouvoir effectivement nourrir, armer et ravitailler des groupes de milliers de combattants, en sachant que sur le plan démographique, bah, les deux groupes plus grosses bases djihadistes en Afrique subsaharienne, c'est les Chebab de Somalie, qui ont une vraie base sociale, et également Boko Haram, dans le pays le plus peuplé d'Afrique, vous le savez peut-être, hein, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Il est en train de devenir, d'ici 2050, le troisième pays le plus peuplé du monde. Hein. En 2050, on aura l'Inde qui sera passée au premier rang, suivie de la Chine, suivie donc du Nigeria. Ce qui fait d'ailleurs que d'ici la fin du XXIe siècle, hein, on le sait, hein, c'est déjà le cas. De toute façon, les Arabes constituent à peu près un quart de l'Ouma, hein, de la communauté musulmane dans le monde. Mais démographiquement, les Africains subsahariens, leur proportion va augmenter considérablement. Je reviendrai d'ailleurs peut-être, si j'ai le temps seulement, sur ces questions démographiques, car elles ne sont vraiment pas anodines. Ce qui me frappe aussi, c'est que tous ces groupes djihadistes, enfin ceux dont je parle, hein, donc la nébuleuse d'Acmi, je ne vais pas vous décliner tous les noms, les factions, les scissions, parce que si je commence à faire ça, on n'a pas terminé à minuit. Hein. Donc je veux dire, la nébuleuse d'Acmi, pour faire plus simple, ou bien de Boko Haram, ou bien des Chebab, sont vraiment enracinés dans des terroirs locaux. Hein. Ils se sont greffés, alors qui avec Acmi sur les griefs des Touaregs dans le nord du Mali, qui sur des frustrations des Kanouris de l'ancien empire du Borno dans le nord-est du Nigeria, ou bien dans le cas des Chebab du sud de la Somalie sur le clan des Ranway. Et de ce point de vue, il faut comprendre l'allégeance de ces groupes, les uns à Al-Qaïda, en l'occurrence pour Acmi ou pour les Chebab, et pour une faction de Boko Haram à l'État islamique. Il faut d'abord le comprendre comme une guerre de communication. Ça n'a pas forcément des conséquences sur le plan opérationnel, y compris sur les types d'armement, sur les stratégies militaires mises en œuvre et sur le nombre de combattants. En réalité, ça répond d'abord plutôt à des logiques de bottom-up. Hein. C'est-à-dire qu'on a souvent, dans le discours dominant, la doxa des organisations internationales, on présente ces groupes comme étant finalement transplantés en Afrique par Al-Qaïda ou par l'État islamique. Comprenons-les plutôt comme des insurrections locales qui veulent prendre une ampleur globale et qui effectivement vont prêter allégeance à ces groupes comme Al-Qaïda ou l'État islamique qui ont véritablement une ambition globale. Donc il faut le voir plutôt aussi comme une logique ascendante hein, et pas seulement descendante, même s'il y a effectivement des intérêts partagés ou non avec l'Al-Qaïda ou l'État islamique, avec des groupes, moi je trouve que ça rappelle un petit peu le syndrome de la grenouille, vous voyez, qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Donc pour une secte islamique qui a basculé dans le djihad comme Boko Haram, bah, faire référence à l'État islamique, prêter allégeance à l'État islamique, c'est aussi une manière de montrer, à un moment où justement le groupe était en recul, que non, il a aussi des alliés à l'extérieur. Hein. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre cette logique ascendante et pas seulement descendante. Autre réalité importante, c'est qu'on ne peut pas comprendre ces groupes si on ne regarde pas les conditions locales de leur émergence. Vous n'auriez pas Acmi dans le nord du Mali si vous n'aviez pas eu des rébellions Touareg qui avaient largement anticipé l'arrivée de ce groupe qu'on appelle aujourd'hui Acmi dans le nord du Mali, qui venait lui-même donc d'une nébuleuse, on va l'appeler comme ça, le GSPC du côté algérien, qui avait émergé suite à l'annulation de la victoire électorale du Front islamique du Salut en 90-91 en Algérie. C'est parti de là en Algérie et ensuite ça a débordé vers le Mali. Donc on ne peut pas comprendre Acmi si on ne remonte pas sur la genèse de ces groupes. Et il y a eu des facteurs précipitants. Le coup d'État de Sanogo à Bamako en 2012 a été extrêmement important. L'armée malienne s'est complètement retirée du Nord. Elle était plus occupée à se battre pour prendre le pouvoir à Bamako, qui est quand même très très loin de des milieux de Touareg ou de Gao, de Kidal ou de Tombouctou. Donc le fait qu'il n'y ait plus d'armée à combattre a permis effectivement à ces groupes d'assurer leur emprise sur le nord du Mali. La crise libyenne de 2011 et l'intervention franco-britannique a aussi précipité les choses. C'est pas le coup d'État de Sanogo à Bamako en 2012, ou bien l'intervention franco-britannique en Libye en 2011, qui sont responsables de la présence d'Acmi qui était déjà là avant, mais ça a été indéniablement des facteurs précipitants, puisque la chute du régime Kadhafi en Libye a amené les milices Touareg de Libye à revenir dans le nord du Mali. Donc on a eu des facteurs précipitants et qui ont aussi joué un rôle important. Alors quand j'essaye de réveiller l'écran, tout s'en va. Non, ça y est, voilà. Même chose pour Boko Haram. On ne peut pas comprendre le basculement dans le terrorisme de type djihadiste de la secte qui avait été fondée par Mohamed Youssouf, et Elodie nous en dira beaucoup plus tout à l'heure, si on ne regarde pas aussi l'exécution extrajudiciaire du fondateur du groupe en 2009, qui explique sa plongée dans la clandestinité, puisqu'avant le groupe avait pignon sur rue. Et il y a eu là aussi des facteurs précipitants extrêmement importants pour comprendre la trajectoire de ce groupe, notamment la stratégie de la terre brûlée, qui a été mise en œuvre par la coalition terroriste, antiterroriste. Lapsus peut être révélateur, excusez-moi, mais il paraît que je suis enregistré. Les exactions également des forces armées qui ont joué un rôle très important. La corruption des autorités, de l'armée, tout ceci a contribué aussi à nourrir et légitimer le djihad de Boko Haram. Quant au Shebab en Somalie, là aussi, c'est ancré dans une réalité politique locale. On ne peut pas comprendre les Shebab en Somalie si on ne revient pas sur l'effondrement de la dictature de Siad Barre en 91, l'émergence d'un premier groupe islamiste de type djihadiste, violent, qu'on appelait Al-Ittihad, puis la prise du pouvoir par les tribunaux, l'Union des tribunaux islamiques à Mogadiscio en 2006, avec là aussi des facteurs précipitants. L'opération américaine Restore Hope en 92, qui a été perçu par certains Somaliens comme étant une occupation par des forces étrangères et impies. Hein. C'est là qu'on voit émerger le discours d'Al-Ittihad à l'époque. La mise en place d'une opération militaire sous la coupe de l'Union africaine avec AMISOM et l'occupation du sud de la Somalie par les troupes kenyanes à partir de 2011, tout ceci a contribué aussi à finalement présenter dans le cœur de certains Somaliens les Shebab comme une espèce de force de résistance nationale contre des troupes d'occupation impie. Et évidemment, ça a joué un rôle très important dans la construction de ces groupes djihadistes. Alors vous allez me dire, tu as quand même une vision très matérialiste des choses, et quid de l'idéologie dans tout ça ? Alors justement, parlons-en, puisque c'est un peu le thème central de ma présentation. Le premier point que j'observe, c'est d'abord que, historiquement, les musulmans africains, subsahariens, n'ont vraiment pas eu besoin de financement saoudien et d'idées en provenance du Golfe pour produire leur propre théologie de la réforme islamique, de la libération islamique, et initier des révoltes qui étaient portées au nom du Coran et de la charia au XIXe siècle. Les grands djihad de la région se sont faits porter par des doctrines soufis à l'époque, en sachant que ces confréries soufis sont aujourd'hui présentés comme la meilleure barrière contre la menace salafiste qui est perçue comme la matrice idéologique du terrorisme, et on va revenir sur cette question. Il faut revenir aussi sur cette présentation qui est souvent faite en Afrique subsaharienne d'une opposition entre un islam africain noir qui serait syncrétique, qui serait soufi, qui serait sympa, démocratique, respectueux du droit des femmes, assez cool comme islam, mais c'est quand même cet islam-là qui a porté les grandes révoltes djihadistes du XIXe siècle qui se sont prolongées en révoltes anticoloniales. Et puis face à un islam arabe qui lui serait exogène et qui serait lui en revanche radical. Je crois que c'est important de le rappeler. Les grands djihads du XIXe siècle étaient des djihads portés par des soufis. Il y a également toute une tradition mahdiste, notamment du côté du Soudan, qui là aussi relève d'un islam endogène africain qui n'a pas eu besoin de financement saoudien. Dans les années 70 et 80, on a encore eu des révoltes islamistes, mais qui à l'époque passaient aperçues parce que c'était la guerre froide, donc on était obsédés par la lutte contre le communisme. Et puis il y avait une alliance objective avec ceux que l'on décrit aujourd'hui comme des salafistes et des wahhabites. On avait un ennemi commun, l'athéisme marxiste. Mais il n'en reste pas moins que là aussi, à l'époque, on a eu des rébellions extrêmement sanglantes, par exemple au Nigeria, avec ce qu'on appelait la secte Maïtadsine, qui n'a absolument rien à voir avec le wahhabisme saoudien, qui n'est évidemment pas financé par les Saoudiens. Ça a fait 5000 morts, essentiellement d'ailleurs parce que l'armée a finalement rasé des quartiers entiers de Kano, la plus grosse ville dans le nord à dominante musulmane du Nigeria. 5000 morts en 10 jours, toute proportion gardée. On n'a jamais obtenu cette intensité de létalité de conflit, même avec Boko Haram en 10 ans. 5000 morts en 10 jours, c'est absolument exceptionnel. Donc je crois qu'il faut s'intéresser encore une fois à cette logique ascendante, hein, de bottom-up, ne pas nier les dynamiques locales dans l'émergence de ces révoltes portées au nom de l'islam, où le Coran finalement sert à légitimer des rébellions avec des interprétations du Coran qui se déclinent suivant évidemment les besoins du moment. Hein. Et du coup, il faut voir aussi que le discours religieux se construit autour du grief. Hein, ça ne faut pas l'oublier. Alors ça n'exclut pas l'extrémisme religieux par ailleurs, hein, mais il faut aussi comprendre le wahhabisme comme une ressource idéologique parmi d'autres pour justifier un combat politique et religieux qui est souvent matiné d'ailleurs de mobiles lucratifs. Alors j'en viens à mon deuxième message, c'est que finalement le religieux n'est qu'un facteur parmi d'autres hein, dans ces révoltes de type djihadiste. Alors je ne vais pas revenir sur tous les arguments qui plaideraient effectivement en faveur de l'hypothèse selon laquelle le wahhabisme serait la matrice idéologique de tous ces groupes djihadistes dont on vient de parler, ACMI, Boko Haram, les Chebab en Somalie, avec l'idée sous-jacente finalement que s'il n'y avait pas eu le wahhabisme, il n'y aurait pas de djihadisme en Afrique, ce qui est une contre-vérité historique. Alors, comme ce discours est dominant, qui impute beaucoup de choses au wahhabisme, ben moi je vais vous présenter mes contre-arguments, hein, puisque l'autre discours dominant, ça vous pouvez l'avoir dans les médias, dans la bouche de la plupart des décideurs politiques, y compris donc, je vous le disais, hein, de gouvernements africains qui professent également ce discours pour des raisons politiques, et si j'ai le temps, je vous en dirai aussi un petit peu un mot, pourquoi est-ce que Idriss Déby va imputer au wahhabisme la raison, selon lui, de l'éclosion de groupes comme Boko Haram. Alors les arguments qui vont à l'encontre de cette hypothèse d'un rôle déterminant de l'idéologie wahhabite. Je vais passer, je vous les cite tout de suite mes arguments pour un peu structurer ma pensée, puis je vais revenir plus dans le détail après. Bon, d'abord, l'État saoudien, il est légaliste et conservateur. Hein. C'est pas du tout un État voyou de type la Libye de Kadhafi. Hein. C'est vraiment très différent. Je crois qu'il importe aussi de relativiser la force de l'endoctrinement religieux, hein, dans les motivations. Pourquoi est-ce qu'on s'engage? Pourquoi est-ce qu'un jeune musulman africain va aller combattre dans des groupes comme Boko Haram, les Chebab ou ACMI? Et là, il faut relativiser l'importance de l'endoctrinement religieux. Il faut aussi mieux discerner les choses. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits pour imputer au wahhabisme la responsabilité de l'éclosion de groupes djihadistes. Et puis, ne l'oublions pas, ouf, je l'ai eu de justesse celui-là. Ne l'oublions pas, vous avez également beaucoup d'obstacles qui se dressent face au prosélytisme de type wahhabite en Afrique. Hein. Et je reviendrai sur tous ces obstacles. Alors, d'abord, la question de l'Arabie saoudite en tant que telle. Hein. L'hypothèse selon laquelle le wahhabisme serait le déterminant du djihadisme en Afrique subsaharienne repose d'abord sur l'hypothèse d'une centralité du monde arabe. Alors je vous le disais tout à l'heure, bon, les Arabes c'est à peu près un quart de la communauté des musulmans dans le monde et leur proportion est de toute façon amenée à décliner, hein, puisque quand on parle du Sahel en Afrique, qu'on parle des régions qui connaissent les plus forts taux de croissance démographique au monde. Alors, il faut quand même bien remarquer que les Saoudiens ne sont pas les seuls à faire du prosélytisme en Afrique. Hein. Il y a aussi d'autres foyers de militantisme islamiste. Il y a les Tabliques du côté du Pakistan. Il y a l'Iran avec le chiisme qui a marqué quelques points au Nigeria, avec quelqu'un que j'avais eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, Zakzaki, qui est maintenant détenu au secret depuis plus de 2 ans. Vous aviez la Libye de Kadhafi, hein, qui a eu aussi joué un rôle important en termes de prosélytisme, le Soudan, qui n'est pas non plus aux abonnés absents. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des questions démographiques qui jouent. C'est-à-dire qu'il y a peu de prédicateurs saoudiens en Afrique pour une raison très simple, c'est que de toute façon, il y a peu de Saoudiens. Ce n'est pas des pays, les pays du Golfe ne sont pas très peuplés. Donc ce que font les Saoudiens, qui en revanche ont l'argent du pétrole, c'est qu'ils utilisent des prédicateurs relais, qui sont très souvent d'ailleurs des Marocains, pour ce qui est de l'Afrique sahélienne francophone, ou bien des Soudanais pour ce qui est de l'Afrique sahélienne anglophone. Maintenant, il faut distinguer aussi ce qui relève de la prédication, du prosélytisme qui peut relever d'initiatives privées, et puis de l'État saoudien, hein, qui est un royaume, qui est un État qui est lui-même victime du terrorisme. Dès 79, par exemple, vous aviez eu une grande attaque qui avait été montée par un commando mahdiste, hein, contre la grande mosquée de la Mecque. Hein. D'ailleurs, à l'époque, le GIGN français avait dû intervenir, et déjà... les dents des salafistes saoudiens grinçaient, c'est-à-dire qu'on appelait des troupes d'un pays impie, entre guillemets, surtout la France républicaine laïque, vous imaginez, pour entrer sur une aire sacrée comme la Mecque et aller finalement débarrasser le royaume saoudien de ce commando mahdiste. Évidemment, les choses ne se sont pas arrangées avec la première crise du Golfe en 91, hein, quand là, c'est carrément des troupes américaines qui sont entrées sur le sol saoudien pour bouter les troupes de Saddam Hussein en dehors du Koweït et empêcher qu'elles envahissent l'Arabie saoudite. Il y a eu ensuite toute une série d'attentats terroristes. Hein. Il y a eu celui contre le siège de la garde nationale à Riyad en 95, Al-Qaïda à partir de 2003, Daesh, enfin l'État islamique, à partir de 2014. Tous ces groupes qui, en fait, il faut le rappeler, fustige l'alliance, entre guillemets, sacrilège, hein, des Saouds, de la dynastie des Saouds, avec le grand Satan américain. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique un jour comment ça se fait que les Saouds soient assez stupides pour financer des groupes qui, justement, les attaquent. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors on me dira que la CIA avait bien financé les Moudjahidines afghans contre l'armée rouge. C'était l'époque où, effectivement, il y avait un ennemi commun. Et ensuite, les choses ont échappé un peu au contrôle de la CIA. Pourquoi pas admettre que c'est aussi possible dans le cas des Moudjahidines afghans qui avaient été, effectivement, appuyés par l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, c'est un royaume qui est profondément conservateur. Alors j'avais laissé ici aussi une pile du dernier numéro de la revue Questions internationales auquel j'ai contribué, qui est consacrée à l'Arabie saoudite. J'allais vous inviter à vous servir, mais je crois que c'est déjà fait. Donc il reste un numéro. Voilà. Bon, bah, écoutez, vous pourrez aller le prendre à la fin de la séance. Bon, c'est un royaume qui est profondément légitimiste. C'est une monarchie, elle est réaliste, donc on est quand même aux antipodes de groupes, enfin d'États qui étaient considérés comme, qui étaient qualifiés d'États voyous, comme le Soudan, la Libye, l'Iran, la Syrie dans les années 70, 80, 90. L'Arabie saoudite, c'est très différent. C'est pas un État qui se veut comme une plateforme de la révolution mondiale. C'est pas un État qui se conçoit comme ça. Il a une vocation prosélyte, c'est absolument indéniable, mais pas pour faire la révolution, pas pour prôner la violence. C'est pas en tout cas comme ça que se conçoit la dynastie des Saouds. Et puis il faut voir une chose, c'est que vous pouvez avoir une coopération saoudienne qui échappe aux mains, il y a beaucoup de détournements en Afrique, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il y a beaucoup de corruption. C'est des choses qui nous arrivent aussi avec les pays membres de l'Union européenne. Vous donnez de l'argent pour construire des écoles, et puis cet argent est détourné et sert à acheter des armes. Donc il y a une fongibilité, c'est comme ça qu'on l'appelle, de l'aide internationale, et ça vaut aussi pour les Saoudiens, qui se retrouvent parfois entre de mauvaises mains. Et puis, n'oublions pas, on a fait grand cas, par exemple, du Croissant Rouge qatari qui était accusé de soigner et d'appuyer des combattants d'Acmi dans l'hôpital de Tombouctou du temps où la ville était aux mains d'Acmi en 2012. Mais dans le droit international humanitaire, les organisations du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, ont effectivement le droit de soigner les combattants, quel que soit leur bord. Ça veut dire que, par exemple, quand Médecins sans frontières intervient dans le sud de la Somalie, dans des régions tenues par les Chebabs, eh bien, il arrive que les Chebabs demandent leur part, ils imposent des taxes. Donc, oui, Médecins sans frontières finance les Chebabs. On va interdire Médecins sans frontières ? Ben non. S'ils veulent accéder pour aider des jeunes enfants qui sont sur le point de mourir de faim, oui, effectivement, il y a une économie politique qui se met en place, et celui qui détient le pouvoir localement, il va prendre sa portion. Oui, c'est bien entendu. Quand aujourd'hui les ONG, et je pense encore à Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge internationale, qui sont, alors qui n'est d'ailleurs pas une ONG, mais peu importe, qui interviennent dans les zones tenues encore par Boko Haram à la lisière, aux abords du lac Tchad, Oui, on sait très bien qu'il y a une partie de la nourriture qui va aller entre les mains de Boko Haram. Hein, on le sait bien. Ça fait partie des défis de l'aide humanitaire. Figurez-vous que ce genre de choses peut aussi arriver pour ce qui est de l'aide saoudienne. Voilà, je suis désolé, on va... Voilà. Alors, j'en viens maintenant aussi à la question de l'endoctrinement. Le discours dominant, c'est de dire que ces groupes djihadistes, Chebab, Acmi, Boko Haram, sont menés et dirigés par des fanatiques, leurs combattants sont fanatiques, donc ils sont endoctrinés. C'est toute l'hypothèse des programmes de déradicalisation, de dire que le fond du problème vient de l'endoctrinement. S'il n'y avait pas d'endoctrinement, on n'aurait pas de problème, on n'aurait pas de lutte armée. Ah bon ? Alors, il y a un peu l'idée que finalement, l'idée que la lecture d'un pamphlet wahhabite serait absolument envoûtante et elle va vous conduire assez naturellement à vous mettre une ceinture du bombe autour du corps pour aller commettre un attentat suicide. Bah, évidemment, les choses sont plus compliquées que ça. Non, la violence d'un discours religieux ne mène pas forcément à la révolte et au terrorisme. On a plein d'exemples dans la chrétienté. J'en ai mis quelques-uns ici parce que l'autre jour, je lisais l'ouvrage tout à fait intéressant qui traite de la façon dont Luther considérait les juifs. C'est hallucinant. Ça n'a rien à envier à n'importe quel pamphlet le plus abominable de n'importe quel djihadiste d'Al-Qaïda. C'est du type brûlez-les tous, égorgez leurs femmes, brûlez leur Torah, etc., etc. Est-ce que pour autant les protestants seraient forcément amenés à se révolter et à prendre les armes contre les juifs? Non, évidemment. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la radicalité d'un discours religieux, son extrémisme, son côté sectaire, qu'on trouve aussi dans beaucoup d'églises évangéliques en Afrique subsaharienne, ça ne suffit pas pour basculer dans la violence. Ça ne suffit pas pour qu'un jeune, prétendument un peu naïf, décide de risquer sa peau, qui plus est s'il est déjà marié et qu'il a des enfants, de risquer la vie de toute sa famille pour aller prendre les armes. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, les rares enquêtes sociologiques dont on dispose, et elles ne sont pas nombreuses, qui ont été menées auprès des combattants des Chebab au Kenya, de Boko Haram au Nigeria, d'Al-Qaïda ou du Front de libération du Massina au Mali, justement, elles démentent le rôle primordial que l'on veut assigner aux mosquées et aux écoles coraniques pour expliquer le passage à la lutte armée. Et la très grande majorité de ces gens, alors je fais référence en fait d'abord à une étude qui est publiée, je vous recommande vraiment, elle est en ligne, c'est publié par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, Journey to Extremism in Africa. C'est le plus grand panel en fait dont on dispose aujourd'hui. Alors eux, ils ont fait des entretiens uniquement dans les prisons avec des membres de ces groupes. Ils ont posé des questions toutes bêtes, hein, mais pourquoi vous avez rejoint le groupe? Et alors là apparaissent toute une gamme de réponses. Où la très grande majorité disent en fait avoir pris les armes pour se défendre. Ils avaient le sentiment d'être persécutés, ils risquaient d'être appréhendés, d'être suspectés de participer à ces groupes et donc d'être appréhendés, torturés à mort. Ils voulaient protéger leur famille, venger des proches qui avaient été exécutés ou torturés par les forces de sécurité, etc. etc. Bon, j'ai moi-même interviewé une soixantaine de membres de Boko Haram, membres suspectés, en tout cas, une partie dans des prisons au Niger, d'autres à Maïdougouri qui avaient lâché les armes, d'autres aussi qui avaient été démobilisés au Tchad, c'était il n'y a pas très longtemps, là il y a quelques mois, au nord du lac Tchad. Et sur une soixantaine de cas, il y en a un vraiment qui disait avoir rejoint le groupe pour des raisons idéologiques, pour des raisons religieuses, quasi exclusivement à cause de ça. Là, il y avait vraiment un cas d'endoctrinement. Un deuxième où c'était plus mitigé. Et puis le reste, c'était la coalition antiterroriste nous interdit de cultiver les champs, on n'avait plus le droit d'utiliser les motos, on pouvait plus circuler, moi j'étais mécanicien, donc je pouvais plus réparer les motos, j'avais plus de job, on m'a proposé de combattre avec Boko Haram, donc oui, je suis allé partir avec eux, il y avait des effets d'opportunité, d'aubaine, si vous voulez, participer au chaos généralisé, piller. Bref, il y avait toute une gamme de réponses que je n'ai pas le temps, dans le temps qui m'est imparti, là, d'expliciter plus avant, mais qui, franchement, renvoyaient pas fondamentalement à la question de l'endoctrinement religieux. Alors je fais aussi référence à mon bouquin à paraître, si vous voulez en savoir plus, et c'est pour ça que je vous en dirai pas plus non plus, parce qu'il faut bien quand même que quelqu'un l'achète. Internet. Oui, Internet a joué un rôle sur les djihadistes qui sont partis des banlieues parisiennes, bruxelloises ou londoniennes ou que sais-je encore, et qui sont allés combattre du côté de l'État islamique en Syrie et en... Mais là, dans les zones dont on parle, le nord du Mali, le Borno, excusez-moi, un accès à Internet, c'est un peu un rêve. Hein. Donc le Turaya, vous savez, ce téléphone satellitaire, ça coûte cher quand même. Oui, là, on arrive à peu près à l'avoir, parce que le réseau est très très mauvais, et notamment dans le monde rural, où ces groupes ont leur base, bah, le réseau, il passe pas, tout simplement. L'étude du PNUD que je citais montre qu'il y a 0% de ces djihadistes aujourd'hui emprisonnés qui disent avoir été recrutés sur Internet ou avoir consulté sur Internet. Voilà. Bon, c'est la même chose pour ce qui est de Boko Haram. Alors, comment ça marche le recrutement ? Là, il y a Olivier Roy qui vient de sortir un livre, qui a édité un livre avec une autre collègue sur la tribu et le djihad global. Oui, la tribu en tant que communauté linguistique, elle joue un rôle important hein, dans le recrutement. La famille, les alliances matrimoniales. Tout ça a joué à plein aussi dans le nord du Mali. Hein. Les réseaux commerçants, ça aussi, ça donne du transnational et ça permet du recrutement. Le rôle des classes d'âge également. Et là aussi, on s'éloigne de la question de l'endoctrinement religieux. Beaucoup de ces djihads, c'est une révolte des jeunes contre le pouvoir des anciens, et notamment des soufis. Alors ça marche aussi avec la bande de potes. Là, je fais référence à Bunch of Guys, vous connaissez peut-être cet ouvrage connu de Mark Sajman, hein, qui était un ancien officier de la CIA en Afghanistan, dans les bonnes années, hein, c'est les années 80, quand les Moudjahidines faisaient l'affaire des Américains, ça a bien changé depuis. Il était le premier justement à insister, mais là il parlait lui des groupes djihadistes qui ont commis des attentats en Amérique, et également de ceux qui avaient recruté autour de la cellule de Hambourg, de voir l'importance de la bande de potes, hein, du lien social qui se crée dans ces groupes, c'est pas du virtuel par Internet. Et puis souvent, vous avez aussi un sentiment de persécution partagée. Alors là, on touche à la question du sectarisme. Mais dans tous les cas, on est quand même assez loin de l'idéologie transnationale. Hein. On est aussi dans des contacts très personnels. Alors, j'ai un autre argument aussi pour, disons, relativiser. Je m'aperçois que le temps tourne et on a démarré en retard. Hein. Pour relativiser l'influence que peut avoir la doctrine wahhabite dans le djihadisme aujourd'hui en Afrique subsaharienne. D'abord, le mot wahhabite, il renvoie à toutes sortes de mouvances. Il n'est pas très bien défini. Et d'une certaine manière, il est un peu galvaudé comme l'usage du mot fasciste. On dit ce régime est fasciste, sans pour autant que ce régime autoritaire ait la moindre référence à la pensée de Benito Mussolini, qui, à ma connaissance, mais les historiens me détromperont peut-être, reste quand même le copyright de ce qu'est le vrai fasciste. Donc le mot fasciste est devenu un mot valise, un mot assez commode, qui peut désigner plein de types de dictatures. Eh bien, le mot wahhabite en Afrique, c'est pareil. C'est souvent un terme péjoratif qui fait référence à quelque chose d'étranger. Et c'est un terme qui souvent aussi est utilisé par les traditionalistes soufis pour décrier des jeunes imams réformistes et modernistes hein, qui vont justement critiquer les compromissions des traditionalistes avec des dirigeants corrompus. Et d'une certaine manière, on a là vraiment une lutte pour le pouvoir. Une lutte aussi pour des ressources économiques, hein, parce que les mosquées, ça rapporte de l'argent, les gens donnent de l'argent. Hein. Donc, une lutte de pouvoir qui opposerait une sorte d'islam de robe à un islam des sans-culottes. Bon, je le dis de manière un peu provocante, mais on est en France quand même, hein, on a tous quand même un imaginaire révolutionnaire. L'islam de robe, c'est l'islam de pouvoir. Ce sont ces confréries soufis qui ont combattu autrefois le colonisateur, mais qui ensuite, parce que le colonisateur était peut-être un peu plus subtil dans la réponse au conflit de ce qui allait devenir les colonies. Et le colonisateur a coopté, en fait, ceux qu'il combattait. Et les descendants des djihadistes d'hier, soufis, du 19e siècle, sont devenus, en fait, partie intégrante du pouvoir. On les a chargés de lever les impôts, de lever des hommes aussi, pendant la conscription, hein, pendant les deux guerres mondiales. Ils ont joué un rôle important. Donc, ces confréries soufis sont devenues, en fait, partie intégrante du pouvoir en Afrique. Ça, c'est l'islam d'Europe, qui est contestée par des jeunes imams que l'on qualifie de salafistes et parfois de wahhabites également, qui eux, c'est un peu l'islam des sans-culottes. Alors oui, on a l'imaginaire révolutionnaire des sans-culottes en France, mais c'est pas à ça que je fais référence. En l'occurrence, vous savez, les salafistes demandent, considèrent qu'une bonne pratique de l'islam pour les jeunes, pour les hommes, c'est de porter des pantalons courts. Hein. Donc quand je parle de l'islam des sans-culottes, c'est effectivement un islam de l'opposition, même si je ne cacherai pas une certaine forme d'humour et d'ironie vis-à-vis de nos références révolutionnaires françaises. En même temps, je crois qu'il importe de nuancer les oppositions que l'on fait entre un islam soufi et un islam salafiste qui, lui, serait importé du monde arabe. Il y a des oppositions communes, notamment, on l'a vu, sur la question des réformes des codes de la famille au Niger, au Mali, au Nigeria. Vous avez des djihadistes qui sont qualifiés de salafistes et qui se réclament de héros soufis, comme par exemple Ousmane Nanfonio, qui était le fondateur du califat de Sokoto, hein, le plus grand djihad qui ait jamais connu l'Afrique subsaharienne, en l'occurrence au XIXe siècle. Et puis, dans leur très grande majorité, et moi-même, je suis tombé dans ce panneau, c'est-à-dire qu'en tant qu'analyste politique de l'Afrique, pendant très longtemps, je découpais l'islam entre les différentes confréries soufis, ceux qui les contestaient, les salafistes, et puis des petites tendances millénaristes, mahdistes, etc. Mais en fait, l'essentiel des musulmans africains, et on a des sondages à ce sujet, ça commence à apparaître, notamment le Nigerian Research Network, qui montre qu'en fait, l'essentiel des musulmans africains ne se reconnaissent dans aucun de ces courants. C'est-à-dire que finalement, quand vous dites que des Africains sont wahhabites ou isala, dans le cas du Nigeria et des pays voisins, ou bien qui sont soufis, je crois que je l'ai, c'est ça hein. Non. Ah non, je ne l'ai pas. À force de... Ah, merci. Bon, pour essayer d'aller vite, parce que le temps tourne, je crois qu'aujourd'hui, il est très difficile de quantifier l'influence réelle qu'ont ces groupes que l'on qualifie de wahhabites en Afrique subsaharienne. Mais ce qu'on sait, c'est que, alors là, ils ne sont pas du tout majoritaires, contrairement à ce que j'entends dire dans certains cénacles de réflexion des décideurs politiques, y compris au niveau de l'Union européenne, et c'est extrêmement inquiétant. Et évidemment, tout ceci relativise l'accent que l'on met sur la question de la déradicalisation des combattants djihadistes. Je crois qu'on a vraiment un choix méthodologique à faire. Soit on prête attention aux doctrines, et à ce moment-là, on admet que les djihadistes du Sahel sont en fait éloignés du wahhabisme. C'est une espèce de bricolage idéologique pour justifier des révoltes et parfois aussi des atrocités, parce qu'il faut rappeler que tous ces groupes djihadistes agissent dans des régions à majorité musulmane, et donc ils tuent essentiellement des musulmans. Alors ça, il faut bien aussi le justifier. Donc il y a un bricolage doctrinaire qui est fait, qui renvoie un petit peu à un salafiste de type wahhabite, mais pas tant que ça. Soit effectivement, on ne prête pas attention aux doctrines. Et à ce moment-là, on ne se gêne pas, on peut écrire sans problème que finalement, les bréviaires de la Russie stalinienne étaient en fait produits par Trotsky, ce qui semble absolument invraisemblable. Et aucun kremlinologue du temps de la guerre froide ne se serait risqué à écrire ce genre de choses. Mais en ce qui concerne les wahhabites, en revanche, on qualifie de wahhabites des groupes qui eux-mêmes ne se qualifient pas de wahhabites. Et à ce moment-là, si on veut prêter attention aux doctrines, il faut nuancer. Parce que, alors, déjà, les wahhabites eux-mêmes ne se considèrent pas comme wahhabites, c'est pas le nom qu'ils utilisent, ils se considèrent comme salafites, enfin, vous avez là le résumé, en sachant que le mot wahhabite a été finalement proscrit par le roi Abdelaziz en 1929, hein, qui lui a préféré la dénomination de salafiste. Donc déjà, les wahhabites eux-mêmes, enfin ceux qu'on appelle les wahhabites, ne s'appellent pas eux-mêmes comme wahhabites. Et puis en Afrique subsaharienne, il faut rappeler que le sunnisme, il est de l'école l'équipe, hein, et non pas en Balide du Golfe. C'est-à-dire que beaucoup de groupes qui sont décriés comme wahhabites disent eux-mêmes ne pas être wahhabites. Par exemple, les isalas. On a plusieurs déclarations de chers isalas qui disent « Mais non, on n'est pas wahhabites parce qu'on suit l'école juridique malikite, pas en Balide. » Donc encore une fois, c'est comme Trotsky et Staline. Soit on dit que tout ça, ça n'a aucun intérêt, de toute façon, ils sont tous communistes et on les met dans le même panier. Soit on écoute ces nuances. Et à ce moment-là, on dit, ah oui, effectivement, il y a un peu un souci, d'autant que les isalas, alors j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais je pense qu'Élodie sera plus prolixe que moi à ce sujet, c'est le grand groupe perçu comme wahhabite, et en tout cas salafiste, c'est parti du nord du Nigeria, donc voilà, le pays le plus peuplé d'Afrique, puis ça rayonne maintenant sur une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest sahélienne. Et c'est un islam de contestation des confréries soufis. Mais ces Isyala eux-mêmes se sont divisés en 1991. Certains étaient favorables à l'intervention contre Saddam Hussein et d'autres y étaient opposés. Donc on a eu une faction qui en fait a soutenu l'Irak contre les Saouds pendant la crise du Golfe en 1991. Donc c'est encore un peu bizarre puisqu'on présente les Isyala comme étant wahhabites et financés par les Saoudiens. Oui, ils ont eu des financements saoudiens. Mais en même temps, les Isyala sont tués par les gens de Boko Haram, donc on voit bien que là aussi, ça coince. Comment ça se fait qu'un groupe... Ah, mon Dieu. Ouais. Qu'un groupe qui est présenté comme la matrice idéologique du terrorisme soit tué par ces mêmes terroristes et s'oppose aux Saouds, lors, en tout cas pour une grande faction des Isyala, lors de la crise du Golfe de 1991. Alors, je n'ai pas le temps de passer sur ce qui se passe sur la situation en Somalie ou au Mali, mais on retrouve aussi le même genre de problématique. Je vais maintenant passer très très vite sur tous les obstacles qui peuvent se dresser et freiner finalement la pénétration des idées djihadistes qui seraient importées du monde arabe. Il y a d'abord quand même la question de l'austérité, du puritanisme wahhabite. C'est pas forcément très attractif pour des musulmans africains subsahariens. Il y a aussi le racisme des Arabes du Golfe contre des Noirs qui sont considérés comme des descendants d'esclaves. Ça n'était pas pour rien dans les dissidences qu'on a pu voir au nord du Mali avec un groupe qui s'appelait le Mujao. Avec les schismes au sein de Boko Haram entre la faction appellation d'origine terroir, Kanouri, avec Abou Bakar Shekau face à un groupe dissident comme Ansarou. J'ai pas le temps de revenir sur toutes ces subtilités. Une division aussi interne à la mouvance dite wahhabite, celle que l'on perçoit comme wahhabite et qui serait pour certains d'entre eux effectivement financée par les Saoudiens, mais ils sont eux-mêmes affaiblis parce qu'ils sont pris dans des nombreuses accusations de détournement de fonds, donc ils se divisent en permanence. L'obstacle de la langue, ça ne l'oublions pas. Les musulmans subsahariens disent leurs prières en arabe, mais ils sont très peu nombreux à parler arabe. Et là, il y a une vraie contradiction dans le projet prosélyte de la dawa saoudienne, parce qu'effectivement, pour les fondamentalistes, la langue du Coran, elle est sacrée. Donc ça veut dire que le livre saint ne doit pas être traduit, afin d'éviter les contresens et les inexactitudes. Et grosso modo, le Coran n'est traduit en swahili, la lingua franca de toute l'Afrique de l'Est, ou en haoussa, la lingua franca de l'Afrique de l'Ouest, que dans les années 1970. C'est très tardif, un siècle après la Bible. Alors c'est quoi ce prosélytisme wahhabite qui veut convertir des Africains dans une langue qu'ils ne comprennent pas? Là aussi, il y a un truc que je n'ai pas bien suivi, mais vous allez peut-être pouvoir me l'expliquer. Alors, ça explique d'ailleurs aussi que les pays du Golfe préfèrent souvent investir leurs efforts sur l'enseignement de l'arabe. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'exception de l'Afrique du Nord et du Soudan, l'usage de l'arabe reste souvent très limité en Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout d'indicateur sérieux, et là j'en parle à des spécialistes des langues, pour savoir si on assisterait réellement à une progression de la proportion des locuteurs arabes dans l'Afrique sahélienne. Et on a même plusieurs éléments qui laissent plutôt penser le contraire. Et là, on a un vrai problème de communication. Ce n'est pas simplement le prosélytisme, c'est aussi pour ces groupes djihadistes. Ils ne vont pas communiquer en arabe. Ils ne vont pas donner leurs ordres en arabe, parce que sinon on ne les comprendrait pas. Alors, ils vont communiquer, c'est des groupes clandestins, ils vont communiquer entre eux en kanouri, dans les langues vernaculaires, ils vont communiquer en somali, en tamatchek, etc. Mais ils vont communiquer dans les langues africaines et non pas en arabe, qui est une langue, encore une fois, très peu pratiquée. Donc ma conclusion, ma foi, elle est assez simple, et je crois que j'ai quand même plus ou moins respecté le temps, tu vois, tu ne m'en voudras pas. J'arguerais que pour comprendre les mouvements djihadistes contemporains au sud du Sahara, il est plus utile d'analyser la dimension locale des conditions politiques et sociales qui ont donné naissance à des insurrections portées au nom de l'islam. Et deuxième point de ma conclusion, c'est que plutôt que de chercher des boucs émissaires à l'étranger, les Saoudiens, le wahhabisme, etc., ça oblige du coup, si on regarde sur les conditions locales de l'émergence de ces groupes djihadistes, ça oblige à poser des questions extrêmement gênantes, effectivement, sur le dysfonctionnement des États africains, qui sont nos alliés, hein, sur les ratés du développement, malgré toute l'aide qu'on a pu déverser en Afrique, et les responsabilités de la classe dirigeante africaine dans l'essor d'une protestation armée de type djihadiste. Et le véritable enjeu de la lutte, à mon avis, contre le terrorisme, c'est plutôt justement de prévenir les conflits et de désamorcer les motifs de mécontentement, hein, et donc d'essayer d'améliorer la gouvernance des États africains, bien plutôt que d'essayer un peu trop tard, de déradicaliser les esprits des contestataires. Mais si j'en viens aussi à cette conclusion, c'est aussi le fruit d'une méthodologie qui met l'accent sur la question du terrain. Donc là, je le mets très brièvement et j'aimerais qu'on ait le temps aussi d'en discuter dans vos questions. Attention à éviter les analogies trop rapides, qui se ressemblent, s'assemblent. Tiens, ils ont cité la même sourate du Coran, donc c'est forcément qu'ils se concertent entre eux. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. On peut avoir un ennemi commun, l'Occident lointain, sans pour autant avoir une doctrine ou un agenda politique commun. Il faut pas confondre non plus les corrélations et les causalités. Hein, c'est pas la même chose. Vous avez parfois, alors au-delà même du phénomène de la coïncidence, vous avez des phénomènes qui vont parfois de pair, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité entre ces deux phénomènes. Et il faut aussi distinguer les perceptions, c'est-à-dire les perceptions que peuvent avoir les Africains eux-mêmes de la question du djihadisme, des faits objectivables. Je crois quand même qu'il est plus intéressant, parce qu'il y a beaucoup de sondages qui sont faits dans les zones travaillées par la question du djihadisme en Afrique sahélienne, où on dit finalement... Qu'est-ce que vous pensez, vous, comment vous pensez que c'est né cette histoire? Quel est le problème? Quelle est la cause de ces révoltes djihadistes? Et beaucoup d'Africains ont des réponses à apporter à ça. Mais c'est leur perception des choses. Je crois qu'on apprend quand même plus lorsque l'on a la trajectoire de vie d'un djihadiste qui effectivement a combattu dans les rangs de Boko Haram, ou bien d'Acmi, ou bien des Chebab, et qu'on voit effectivement pourquoi est-ce qu'il s'est engagé dans la lutte armée. Donc attention aussi à ne pas confondre les perceptions qui peuvent être véhiculés au plus haut niveau par les gouvernements africains, en sachant que les soufis sont nos principaux conseillers aujourd'hui, au niveau de l'État français pour ce qui est des questions de l'islam en Afrique subsaharienne. Ça fait longtemps qu'ils le sont. Et justement, ces soufis sont critiqués par les salafistes, que l'on décrit comme wahhabites, qui justement les répudient comme pratiquant un mauvais islam et étant corrompus parce qu'associés à des gouvernements impies et caractérisés par une mauvaise gouvernance. Donc effectivement, si vous écoutez uniquement les soufis, vous allez avoir un regard qui va insister sur la question de la radicalité du salafisme en Afrique subsaharienne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Merci de votre attention à tous.
Merci, merci pour cette invitation. Merci à vous d'être venu. Je voudrais d'abord apporter une précision. Je ne suis pas islamologue et je ne suis pas spécialiste de l'islam. Donc, je suis là, j'interviens et je parle en qualité d'historienne qui a travaillé sur les périodes très contemporaines au Sahel, notamment au Niger et au Nigeria. Donc c'est en ayant été au sud du Niger et au nord du Nigeria que j'ai été amenée à travailler sur la question de Boko Haram, notamment parce que je constatais au jour le jour la dégradation de la situation et que j'ai même été obligée de quitter le nord Nigeria où j'étais en poste, car c'était plus possible d'y travailler. Donc de cette délocalisation est née une frustration dans l'impossibilité de faire du terrain, l'impossibilité d'aller sur place et de comprendre pourquoi les choses évoluaient dans ce sens-là. Et donc j'ai décidé de quand même continuer à m'interroger sur le phénomène qui se déroulait à ce moment-là dans le Nord-Est et qui était l'insurrection du mouvement qu'on appelle Boko Haram. Et pour ça... Pour pouvoir continuer à le faire sans pouvoir faire de terrain, j'ai décidé d'utiliser les outils qui étaient à ma disposition et donc les discours, les sources primaires qui sont les prêches, les messages vidéo et les quelques documents écrits très rares dont on pouvait disposer. Donc voilà, je l'ai fait avec une connaissance que je pense assez bonne maintenant des contextes sociaux et politiques des terrains dans lesquels se dérouler cette insurrection, mais sans background d'islamologue. Donc vous m'excuserez pour des imprécisions si vous les constatez. Alors parler de Boko Haram dans le cadre d'une conférence comme celle-ci sur le terrorisme au Sahel, c'est pour moi l'occasion de discuter cet aspect qui l'est rarement, donc l'aspect du discours, la question de l'idéologie, hein, qui sous-tend le mouvement et les actions du groupe. Effectivement, on parle beaucoup de cette association, de groupes djihadistes, de cette, ce mouvement de djihad global, des liens supposés ou réels entre le mouvement qu'on appelle Boko Haram et puis les autres mouvements type Al-Qaïda ou ensuite l'État islamique. Mais en fait, si on prend le temps d'écouter les sermons, notamment les sermons du fondateur, qui est donc Mohamed Youssouf, on se rend compte qu'en fait, les logiques locales sont les principaux éléments qui ont servi à la base à construire l'idéologie.
Tu voulais peut-être projeter un
peu. Oui.
Désolé, voilà, c'est ça.
Il faut juste, on va juste faire ça.
Ah, il est là.
C'est celui-là.
Là, c'est celui-là.
Non, on va pas faire le CD.
D'accord. Désolé, je t'interromps, mais je me suis dit que tu voulais peut-être.
Ouais. D'accord. Bon. On va voir, ça va marcher.
C'est bon. Ça revient.
Ouais. Voilà. C'est bon ? Non ? Bon.
On aura eu la technologie contre nous. Hein.
Alors, on va faire Escape. Et on va faire le PDF.
Ouais. Non, je pense qu'il y a
un comme on dit, Elodie, chacun sa croix. Moi, c'était la mise en veille.
Il faut que j'éteigne ?
Oui, je pense.
Ok.
En fait, en tirant, je pense que ça, c'est bien. Tu
vois. Et que je relance.
Si tu débranches.
Ouais. Ça marche ?
Non.
Non ? Moi, j'ai pas besoin de la clé, non, parce que je l'ai pas.
Ouais,
ah,
c'est bon.
Ça y est,
c'est bon.
Formidable.
Voilà. Parfait. Ok, par contre, je ne veux pas le mettre en lecture. Ok. Voilà, donc, moi je suis revenue sur les mots, sur les mises en scène, sur les images, sur les éléments qui étaient contenus dans les outils sur lesquels je travaillais. Et alors, si on regarde les sermons du fondateur, de Mohamed Youssouf, ceux qui ont servi à mobiliser, ceux qui ont servi de catalyseur au mouvement, on se rend compte qu'effectivement, voilà, sa rhétorique, elle est basée essentiellement sur des problèmes locaux, sur des dynamiques et des enjeux qui sont propres au nord du Nigeria et qui ne concernent en rien un supposé combat international ou global. De même, les messages vidéo du second leader, de Aboubakar Shekau, qui est beaucoup plus médiatique, puisque les vidéos ont été diffusées très largement dans les médias, elle semble, après une lecture rapide, s'inscrire dans une logique de djihad global, et pourtant, elle comporte en réalité de nombreux éléments d'ancrage dans ces dynamiques locales. Donc, en gros, le mouvement Boko Haram est devenu célèbre, surtout à partir de l'enlèvement des filles de Chibok, puisque là, on a eu affaire à un espèce de phénomène d'emballement médiatique. Après la vidéo, évidemment, de revendication de l'enlèvement par Aboubakar Shekau, en tout cas, le petit extrait qui a été diffusé par les médias, dans lequel il disait qu'il allait vendre les filles sur le marché, les donner en mariage, et donc qui ont choqué tout le monde et qui a créé cette grande campagne internationale « Bring back our girls ». Et donc, cette affaire de Chibok, elle est intéressante parce que c'est un moment de cristallisation de la tension médiatique. C'est le moment où l'opinion publique découvre ce mouvement réellement. Et c'est aussi le moment où nous, les chercheurs qui travaillons au Nigeria ou sur le Nigeria, on est obligés de s'interroger ou de se réinterroger sur les discours, sur les messages, sur leur contenu, sur leur forme, mais surtout sur leur portée et sur leur compréhension et leur perception. C'est donc ce moment d'attention médiatique accrue qui met en lumière le rôle essentiel que jouent les mots et les images dans l'évolution du phénomène qui est Boko Haram. Et ces mots et ces images dans l'histoire du groupe vont souvent de pair. Les bases idéologiques du groupe, donc je le disais en introduction, elles ont été façonnées par un homme qui s'appelle Mohamed Youssouf, qui est un jeune prédicateur au début des années 2000, très populaire au Nigeria, et en particulier dans l'état de Borno, dans le nord-est. Là, je vous mets, bon, juste pour situer, hein, grosso modo, mais la carte du Nigeria et la carte, voilà, en rouge, l'état de Borno. Donc on est vraiment dans l'extrême nord-est. On est loin de la capitale, on est loin de la région pétrolifère, on est un peu loin de tout. Et ce jeune prédicateur est issu du mouvement Izala, dont on vient de parler un petit peu, qui est donc un mouvement réformiste nigérian qui est apparu à la fin des années 70 au Nigeria. Alors, Izala, c'est un diminutif. Hein, le mouvement s'appelle Jamaatu Izalatul Bidiha wa Ikamatul Sunnah, donc la société, on va dire, pour la suppression des innovations blâmables, des innovations hérétiques, et la mise en place de, enfin, le respect de la Sunnah. C'est un mouvement qui se construit surtout sur l'opposition aux confréries soufis. Et qui est porté à la fin des années 70 par un cheikh qui s'appelle le cheikh Abou Bakar Goumi, qui est le grand cadi du nord Nigeria, et qui ne fustige pas l'État fédéral nigérian, et qui au contraire interpelle à la fin des années 70 les musulmans du Nigeria pour les inviter à participer au processus démocratique, puisque en 79, on assiste aux élections démocratiques au Nigeria, aux premières depuis le coup d'État de 66. Donc, on n'est pas du tout dans un mouvement qui se construit en opposition à l'État, on est plutôt dans un discours d'encouragement à la citoyenneté, à la participation de la vie politique, puisque Abou Bakar Goumi, un des piliers de l'Izala, du mouvement Izala au Nigeria, fait des prêches très très claires sur la nécessité des musulmans, la nécessité pour les musulmans d'aller voter, disant même que le vote et que la politique c'est plus important que la prière. Donc ce mouvement-là. Il est évidemment morcelé, hein, il est éclaté, il y a évidemment différents courants, j'ai pas le temps de vraiment rentrer dans les détails, mais il y a des grands chers Izala qui émergent du paysage religieux au Nigeria, et l'un d'entre eux, c'est le cher Jafar Mahmoud Adam, que vous pouvez voir là, et qui est le mentor de Mohamed Youssouf. C'est lui qui le forme. Il le forme notamment au tafsir, à l'exégèse du Coran, et c'est sous la tutelle de Jafar que Mohamed Youssouf devient un prêcheur très, très doué. Par contre, il y a une petite spécificité concernant Mohamed Youssouf. Il est formé par Jafar, mais il n'est pas issu d'une école d'université islamique. Il n'est pas diplômé d'université islamique. Contrairement aux grands ulema du Nigeria, comme le cheikh Jafar, qui lui est diplômé de l'université de Médine, Youssouf est formé au Nigeria. Donc il a un petit peu ce côté formation locale pour laquelle il est un petit peu moins bien considéré que les chers qui se sont formés à l'étranger. Il est considéré d'abord comme un jeune prêcheur, moins expérimenté et pour qui la science religieuse est quelque chose quand même de nouveau. Il est en apprentissage. Donc Jafar reste son mentor pendant de longues années. Et encore aujourd'hui, Jafar représente quand même un des oulémas les plus célèbres et les plus respectés du Nigeria. Ses serments sont très écoutés. Au-delà du Nigeria d'ailleurs, ses serments sont très écoutés. Ils sont faits en Haoussa, donc ils sont écoutés dans toute la zone haoussaphone, et notamment au Niger où ils sont très populaires. Et pour illustrer ça, je voulais vous montrer quelques images, parce que dans la vie de tous les jours au nord Nigeria comme au Niger, La vidéo joue un rôle extrêmement important. C'est un des supports de diffusion des prêches, mais aussi, comme vous le voyez là, de films de Kannywood, notamment l'industrie du cinéma nord-nigérian. Et les DVD produits en Chine étant très facilement accessibles, c'est pas cher et on en trouve partout sur les marchés du Nord-Nigéria, tout le monde à la maison a un lecteur DVD et peut acheter des DVD de prêches. Donc dans les vidéothèques des marchés du Nord-Nigéria, on trouve énormément de DVD de prêches. Donc sous ces formes, là vous voyez, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, mais il y a les DVD de Jafar qui sont donc parmi les meilleures ventes. On vend aussi d'autres produits liés aux pratiques religieuses. Là vous voyez les siwak, les cure-dents traditionnels qui sont réputés être des objets utilisés par les salafs, par les compagnons du prophète, donc qui vont aussi avec qui accompagnent aussi d'autres pratiques, les pratiques islamiques. Donc Youssouf se forme auprès de ce ouléma particulièrement populaire, mais il a besoin de se distancier de lui et de s'affirmer, de s'autonomiser. Notamment parce qu'il est la cible de critiques de la part des oulémas de l'Isala, donc des oulémas qu'on va quand même définir comme salafistes, parce que l'idéologie de l'Isala est quand même très ancrée dans l'idéologie salafiste. Moi, je ne parlerai pas de wahhabisme du tout, parce que ce n'est pas du tout un terme qui revient au Nord-Nigéria. D'ailleurs, salafiste moins, pas tellement non plus. Et les gens vont plutôt utiliser le terme al-sunna, donc les gens de la sunna, ou les sunnites, ce qui est un terme en fait très général, mais qui au nord du Nigeria, comme au Niger, comme au nord Cameroun aussi, je pense, al-sunna veut dire, fait référence à l'école de pensée Isala. Donc, Youssouf a besoin de s'autonomiser vis-à-vis de cette école de pensée qui ne le considère pas exactement comme il voudrait être considéré, qui critique son manque de savoir dans les sciences islamiques. Et il développe un style à lui, voilà, un style différent de celui de Jafar et surtout beaucoup plus virulent et beaucoup plus radical. Notamment vis-à-vis du gouvernement fédéral nigérian et vis-à-vis du modèle occidental en général. Il faut savoir que on a dans le nord Nigeria un paysage religieux extrêmement fragmenté, avec des acteurs au discours très très différents. Plusieurs branches dans les Isala avec des angles d'approche de la religion et du politique très différents, mais aussi un discours très anti-gouvernemental du côté des chiites, enfin du mouvement qui ne s'appelle pas non plus chiite, mais qui est très proche des idées chiites, c'est le mouvement de Ibrahim el-Zakzaki, qui lui aussi fustige le gouvernement fédéral et ses alliés. Donc, Youssouf trouve sa place, si vous voulez, dans ce paysage religieux nord-nigérian en développant son style à lui, très politique, très, très radical, mais qui n'est pas l'apanage ni des salafis, ni des musulmans d'ailleurs. Il y a des discours très virulents aussi parmi les chrétiens dans le sud. Donc il prêche un peu partout au nord Nigeria, surtout dans le nord-est, surtout à Maïdougouri. Il est originaire de Yobe, Mohamed Youssouf, mais il fonde sa base à Maïdougouri. Et il devient lui aussi très populaire. Non pas parce que c'est un grand érudit musulman, non pas parce qu'il est particulièrement bon dans l'exégèse du Coran, mais parce qu'il est, il a un style, c'est un très bon orateur et il a un style très attractif, notamment pour les jeunes qui constatent la situation délétère au nord-est du Nigeria et pour qui ce discours très politique et très critique fait écho. Alors, il n'est pas à ce moment-là, on parle des années 2003, 4, 5, on n'est pas en confrontation directe avec le gouvernement fédéral nigérian, ni même avec le gouvernement local de Borno State. Il est même plutôt dans une relation un petit peu intéressée, opportuniste, où le gouverneur de l'État de Borno à l'époque, Ali Modou Sharif, trouve ce jeune prêcheur finalement intéressant parce qu'il est capable de mobiliser, parce qu'il a un groupe autour de lui de jeunes gens qui peuvent être éventuellement mobilisés pour les campagnes électorales. Donc il joue un jeu assez dangereux finalement, le gouverneur de Borno. Et Youssouf sait aussi bien s'insérer dans le jeu politique. Il se rapproche d'un groupe de jeunes gens, notamment issus de l'université de Maïdougouri, qui en 2002 fonde une communauté religieuse dans la ville de Kanama, qui est à la frontière du Niger, et qui seront appelés les talibans nigérians. Eux sont dans une logique de confrontation. Pas au départ, mais leur communauté finalement ne s'accommode pas de la présence des forces de l'ordre nigérianes. Donc finalement, il y a des échauffourées et la communauté est écrasée en 2004. Elle est détruite. Et Youssouf est proche de ces gens-là, mais en même temps garde une distance de sécurité parce qu'il sait que d'être trop proche de cette mouvance très radicale peut lui attirer des ennuis. Et d'ailleurs, à la destruction de la communauté de Kanama, il part en Arabie Saoudite. Il part en Arabie Saoudite pour prendre un peu de distance avec le Nigeria et avec ce contexte un peu troublé. Et aussi parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même la référence qui lui manquait. Donc il revient d'Arabie Saoudite en 2015. Ce qui est intéressant, c'est que son retour est négocié par à la fois le cheikh Jafar, donc son mentor, et le vice-gouverneur de l'État de Borno, qui vont aller lui demander de revenir, mais en lui disant, voilà, tu reviens, tu ne seras pas inquiété du moment que tu promets de ne pas t'engager dans un mouvement de djihad armé et radical. Et il le fait, et il s'engage, et il revient. Et donc, pendant la deuxième partie de la décennie 2000, il continue à prêcher. Il construit une mosquée d'abord attenante à sa maison, à Maïdougouri, qui ensuite se développe et devient ce qu'on appelle une markaz, donc un centre islamique dans lequel il y a de l'enseignement, dans lequel il y a des activités commerciales, dans lequel il y a des gens qui habitent aussi à l'année. Donc on est là dans un centre un peu plus gros qui est ouvert sur l'extérieur, mais qui abrite quand même une certaine forme de vie en communauté. Et là, vu l'ampleur que prend son influence, les tensions augmentent avec le gouvernement. Et puis, alors, juste pour l'anecdote, il appelle son centre, sa markaz, il la nomme Ibn Tamiya, donc la référence, une grande référence du salafisme, puisque c'est un théologien salafi du 13e, 14e. Donc il y a quand même une connexion qu'il garde avec son passé isala. Donc là, on ne peut pas encore complètement parler de mouvement religieux. On parle d'une communauté, on peut parler d'un mouvement sectaire. Il s'agit d'un groupe de fidèles qui vivent autour d'un mentor. Et les gens à l'époque appellent ce mouvement la Youssoufia, donc le groupe de Youssouf. Or, pour comprendre comment ce petit groupe de gens, cette Youssoufia, qui est finalement une communauté ou une secte religieuse, dérive jusqu'à devenir un mouvement armé, un mouvement terroriste, en tout cas reconnu comme tel sur la scène internationale, qui est capable de menacer la stabilité non seulement du Nigeria, mais aussi des pays voisins, il faut aller chercher dans les messages du fondateur, il faut aller essayer d'identifier les arguments religieux, mais pas seulement, les arguments politiques et sociaux qui sont développés. Youssouf est avant tout un prêcheur, mais il a quand même écrit un ouvrage dont vous pouvez voir une copie, là on s'est procuré une copie, qui est en gros la justification religieuse, les fondements, les bases de sa pensée. D'ailleurs, ça s'appelle « Notre doctrine et nos méthodes de prédication ». Et c'est un peu une réponse à ses détracteurs isala qui dénonçaient la faiblesse de son argumentaire religieux. Et donc, il écrit ce livre. Bon, c'est pas... on l'a fait traduire. Et c'est, il y a beaucoup de passages quand même plagiés d'auteurs salafis. Il y a beaucoup de références à Ibn Taymiyyah. Bon, c'est un ouvrage assez basique. Finalement, on n'y apprend pas grand-chose. Dans les séances de prêche filmées, en revanche, on apprend plus de choses. Disons que c'est un corpus assez riche. Dans la forme, bon, c'est des sermons assez classiques. Hein, il part d'un hadith, où il prend un verset, il le fait réciter par le al-aram, la personne qui récite le Coran par cœur, et puis il fait un commentaire. Souvent aussi, il y a un jeu de questions-réponses avec le public. Comme dans beaucoup de prêches Isala, il y a des gens qui posent des questions à l'avance, avant le prêche, et ils s'attachent à y répondre pendant le prêche. Et puis ensuite, il prend un exemple à partir duquel il va faire toute une partie improvisée de prêche. Souvent, c'est quand même un mélange assez hétéroclite d'exégèse du Coran, de commentaires sur les bonnes pratiques religieuses et de discours politiques, mais on peut quand même dégager trois éléments centraux dans la rhétorique de Youssouf, selon moi, qui sont importants. C'est d'abord la mise en accusation d'un État laïque et oppresseur, notamment envers les musulmans. C'est ensuite l'exploitation du sentiment d'injustice, ça il sait très très bien le faire. Et ensuite, la dernière partie de son argumentaire, c'est la promotion du djihad et la glorification du martyr. Donc on a affaire à un type de prêche très très politique, et pour broder son argument politique, Youssouf va souvent partir d'un événement particulier pour illustrer les injustices dont ont été victimes les musulmans au Nigeria. Alors il part souvent quand même d'un exemple local. Alors là je prends un exemple au hasard. C'est un sermon qu'il prononce en 2006, juste après les manifestations qui ont suivi l'affaire des caricatures de Mahomet publiées au Danemark. Voilà. Au moment où les caricatures sont publiées, bon, vous vous souvenez hein, de la vague de protestation que ça déclenche. Et au Nigeria, ça tourne en manifestation antichrétienne dans les villes du Nord, notamment à Maiduguri, à Bauchi, d'autres grandes villes du Nord. Et il y a 25 personnes qui sont tuées dans ces manifestations antichrétiennes. Dans les jours qui suivent, et c'est souvent le cas quand il y a des violences politiques au Nigeria, il y a un effet de représailles. Et là, il y a des violences qui éclatent dans les États du Sud, et, notamment dans les grandes villes du Sud et du Delta, où il y a une forte présence de Nigérians du Nord, hein, notamment le commerçant. Et dans la ville d'Onitsha en particulier, il y a 140 personnes qui sont tuées, 140 musulmans du Nord qui sont tués. Et il y a 5000 musulmans qui fuient la ville le même jour. Donc il va prendre cet exemple-là, Youssouf, pour commencer son prêche. Et je cite rapidement, il dit, voilà, à Onitsha, on a tué tout le monde. À Maiduguri, oui, il y a eu des échauffourées, on a brûlé des maisons, mais ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé à Onitsha. C'est pourquoi il ne faut pas baisser les armes. Il faut toujours sortir avec vos armes. Ne les abandonnez pas, car eux, s'ils ont le dessus sur vous, ils ne vous épargneront pas. Ne les aimez pas, ne leur montrez pas d'amour, mais montrez-leur votre opposition. Car quand le prophète a été chassé de Médine, c'était les mêmes gens et les mêmes mécréants. Et après avoir rappelé ces événements très, très frais hein, et très douloureux, il va ensuite emprunter des exemples à l'international. Et là, il va parler de l'Irak. Bon, je fais des raccourcis, évidemment, le prêche est beaucoup plus long. Et il va dire, voilà, en Irak, il y a des gens qui ont été humiliés. Là, il fait référence à Abu Ghraib. Ils ont été humiliés chez vous. Ils ont été humiliés chez eux, dans leur propre pays. Eux qui ont construit leur pays, on les oblige à se mettre à quatre pattes. On les dénude et on les force à se faire prendre par un chien. Vous imaginez déshabiller une femme et la forcer à se faire prendre par un chien. Face à ce genre d'humiliation, peux-tu te taire ? Tais-toi, mais le jour du jugement dernier, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et là, il sait que son auditoire, évidemment, n'est pas concerné par les violences de Guantanamo, mais les gens ont vu les images, on les a tous vues, les images d'Abu Ghraib. Pardon. Et donc, il fait appel aussi à l'émotion des gens, hein, au sentiment d'injustice, de dégoût, de révolte que ces images ont provoqué. Et ensuite, il revient à nouveau au niveau local. Il reprend un exemple propre à Maïdougouri. Il dit, voilà, même face aux pires attaques, il ne faut pas reculer. On a infligé des supplices aux prophètes, mais ils n'ont pas reculé. Quand ils essayent de disperser un attroupement avec des gaz lacrymogènes, vos enfants passent la nuit à tousser. Tu peux circuler tranquillement dans ta voiture, ils vont t'arrêter et pour rien, sans que personne ne te voie, tu vas disparaître. Si vous voyez les militaires venir et dire qu'ils vont vous protéger, c'est faux. Donc il va vraiment travailler sur le sentiment d'injustice qui est vécu par les musulmans nigérians, mais qui est vécu d'une manière très large par un grand nombre de Nigérians. Là, il fait référence à la police, à la manière dont la police répond au mouvement de foule avec des glaces lacrymogènes, mais aussi avec des assassinats extrajudiciaires, avec des disparitions forcées. Il fait référence aux violences de la police et de l'armée, ça a forcément de l'écho hein, dans son auditoire, parce que c'est une réalité, la violence des ce que Marc-Antoine a appelé les corps habillés. Donc il peut puiser dans plusieurs événements qui se sont passés au Nigeria. Il parle parfois aussi des violences de la région de Zango-Kataf, de l'état de Kaduna. Enfin, il a largement le choix hein, pour illustrer ses propos, puisque bon, au Nigeria, on a quand même des cycles réguliers de violences représailles depuis la guerre du Biafra, en gros, hein, des violences intercommunautaires très souvent motivées par des raisons sociales et politiques, mais qui sont très souvent interprétées comme des violences interreligieuses et qui s'accompagnent de discours haineux et d'appels au meurtre, et pas seulement dans le cas de Boko Haram. Hein, depuis le Biafra, on a quand même régulièrement des appels au meurtre et à la haine de par une multitude d'acteurs, pas seulement musulmans. Donc l'habileté de Youssouf, elle réside dans ça, dans cette articulation entre différentes échelles. Alors je vous montre une capture d'écran du prêche en question, donc qui date de 2006. Et il arrive donc à désigner auprès de son auditoire des deux types d'ennemis. Les ennemis théoriques de l'extérieur, donc qui sont les occidentaux, les juifs, la rhétorique classique et générale. Et puis les ennemis réels, les ennemis locaux, hein, sur lesquels, contre lesquels les actes violents peuvent ensuite être perpétrés, c'est-à-dire le gouvernement, ses représentants, ses alliés, et qui incarne pour lui un modèle impie, oppresseur et particulièrement injuste avec les musulmans. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous donner d'autres exemples. Si. Je voudrais citer un passage d'un autre sermon prononcé en 2009 où il parle précisément de la corruption à Maïdougouri, parce que c'est aussi là-dessus qu'il va développer qui va manipuler le sentiment d'injustice. Il dit, tu vois, dans cette ville, on vocifère, on nous traite d'imbéciles, on dit tout un tas de choses sur nous. Moi, ils sont venus me chercher, ils m'ont arrêté. Je leur ai dit que je savais ce qu'ils faisaient, qu'ils avaient touché de l'argent pour le faire. Je leur ai dit que j'étais au courant de leur manigance. Je leur ai même donné le nom de l'homme qui les a payés. C'est dans son bureau qu'ils vont chercher l'argent. Je vous assure, moi, je n'ai pas peur d'eux. Ils m'ont demandé qui t'a dit ça. Et j'ai répondu que je l'avais vu de mes propres yeux. C'est pour ça que je vous dis que tant que vous avez confiance en Dieu, rien ne va vous arriver. Les marabouts qui passent tout notre temps à nous insulter, ce sont les mêmes personnes qui les payent pour le faire. Si tu as confiance en Dieu, rien ne va t'arriver. Ceux qui ont de l'argent, qui payent les gens, ce sont eux qui dirigent et qui ont le pouvoir. Mais quand tu payes un pauvre pour faire la guerre à un autre pauvre, quel type de pouvoir tu as? Je vous jure, ce sont eux qui payent les marabouts qui passent leur temps à nous insulter. Si on prend mon cas, c'est pire. Ils veulent m'arrêter alors que les gens m'aiment. Mais je vous jure, nous n'avons ni honte, ni peur. Donc là, ces affirmations, elles font écho à un contexte local qui est effectivement gangréné par la corruption de l'élite politique et de la police. Donc, cet exemple-là, il permet de susciter chez son auditoire à la fois l'émotion, la colère, la révolte. Et quand il a réussi à susciter ça auprès de son auditoire, il passe ensuite à une autre phase qui est celle de convaincre ses fidèles de l'importance d'agir. et donc de transposer leurs émotions en action. Et là, il commence à parler du djihad. Il le présente comme une injonction divine et comme une obligation à laquelle le croyant ne doit pas pouvoir se déroger. Ensuite, il développe aussi un discours de glorification du martyr. Et il prend des exemples, alors soit dans la tradition prophétique, soit dans des exemples très proches de lui. En tout cas, il présente le sacrifice ultime comme un passage en douceur vers le bonheur éternel et en fait donc une valorisation poussée. Alors, c'est une démonstration assez simple et naïve, mais je vous la donne parce qu'il y a un élément qui est assez important. Il dit « Lorsque vous voyez des hommes mourir en faisant le djihad, il ne faut pas penser qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts. Allah a dit qu'ils ne sont pas morts. Ils sont là-bas, dans les mains d'Allah, et ils mangent et ils boivent bien. Avant de mourir, si tu fais la shahada, ton corps reste sur terre, mais tes yeux aperçoivent déjà le paradis. Et c'est pour ça que le shahidi sourit en mourant. Parmi les fidèles partis prêcher auprès des mécréants, certains avaient été blessés et même mutilés ou estropiés, mais le prophète les a rassemblés. Il les a guidés et ils l'ont suivi. C'est ça le jihad. Les garants de la constitution... Les garants des institutions, ce ne sont pas eux qui vont bien finir, à côté de toi, qui est le garant de ce qui a été énoncé par Dieu. » Alors, cette dernière phrase, elle est importante, parce qu'il y a la glorification du martyr, mais il y a surtout le martyr présenté comme un moyen d'élever les gens de rien au-dessus des puissants, au-dessus des gens qui ont le pouvoir, et au-dessus de cette élite qui incarne un système, mais qui incarne aussi les injustices de ce système. Donc le discours du martyr, il est transposé à un contexte social particulier et il devient un discours de revanche sociale. De plus, le discours sur le martyr, je pense que c'est la capture d'écran de ce prêche-là. Le discours sur le martyr, il prend une dimension toute particulière à la mort de Youssouf, puisque donc la situation se dégrade entre le gouvernement et la Youssoufia. La Youssoufia attaque plusieurs postes de police. Finalement, il y a une opération de représailles à l'échelle de l'État qui est organisée. Et entre le 26 et le 30 juillet 2009, c'est une vague de répression totalement aveugle et sanglante qui s'abat pas seulement sur la Youssoufia, mais sur toute la ville de Maïdougouri. Il y en a a priori pas loin de 1000 morts hein, en quelques jours. Et Youssouf est arrêté le 30 juillet. Il est arrêté, il est amené dans les locaux de la police, il est dénudé, il est interrogé, il est transféré et sur le chemin du transfert, il est abattu dans la rue. Son corps est filmé, son corps déchiqueté est filmé. Donc il y a les images de cet événement qui circulent pas mal, notamment sur les téléphones portables. Et cette exécution extrajudiciaire, avec la série de violences qui l'accompagne, c'est ça qui déclenche la transformation de la Youssoufia. Déjà, ça transforme la position de Youssouf lui-même, hein, qui était un leader religieux, mais qui devient un martyr, et qui devient quasiment un prophète, puisqu'il avait prophétisé sa propre mort. Il l'avait dit dans plusieurs prêches, un jour ils me tueront, ils veulent ma mort, ce sont des sauvages, ils n'ont pas de pitié... Et là, la façon dont ça se passe lui donne raison post-mortem. Donc ça lui donne d'autant plus d'aura, mais surtout ça transforme un groupe religieux, certes radical et certes potentiellement violent, en un groupe clandestin prêt à s'engager dans une lutte armée bien plus importante. Et les autorités nigérianes qui étaient censées écraser la secte, là, lui donnent la garantie d'un essor rapide et efficace. Donc là, on a vraiment un tournant important en 2009 à Maïdougouri, de par la violence de la répression, mais aussi de par la mort de Youssouf, cette mort vraiment particulière, qui fait écho à tout un tas d'éléments qu'il avait développés dans ses prêches. Donc bon, pour résumer la période de Youssouf, c'est une période où le mouvement qui est appelé la Youssoufia est un mouvement religieux radical avec des positions particulièrement dures vis-à-vis de l'État nigérian, mais où il n'y a par exemple aucune revendication territoriale, encore. Il n'y a pas de demande de la part de la Youssoufia de contrôler un territoire et de vivre en autonomie. Il y a seulement la dénonciation d'un gouvernement, d'un modèle de gouvernement qu'il considère impie et injuste. Après la mort de Youssouf, en revanche, on passe à une autre phase. Et là, c'est donc Aboubacar Chekaou qui prend la relève. Je ne sais pas si j'ai trop le temps de développer. Et là, il faudrait... À 8h30. Donc, pour qu'on puisse discuter un peu avec... je vais essayer de raccourcir un peu la deuxième phase, qui est donc la phase de reprise du leadership par Aboubacar Chekaou, que je pense tout le monde connaît ici. Autant Youssouf, ce n'est pas une figure connue, autant Chekaou, tout le monde l'a vu à la télé. En revanche, tout le monde a vu des vidéos où il est complètement délirant, vociférant, disant n'importe quoi. Quand on regarde les vidéos les premiers messages qui sont diffusés après la mort de Youssouf, on n'est pas du tout dans ce registre-là. D'abord, pendant un an, le mouvement reste totalement invisible. Enfin, il se fait pas parler de lui. Pendant un an, on n'entend plus parler de la Youssoufia, on n'entend plus parler des fidèles de Youssouf. Et en 2010, juin je crois, Aboubacar Chekaou fait un premier message vidéo dans lequel il dit que c'est lui qui va prendre la relève. Et que le mouvement maintenant s'appelle Jama'atu al-Sunnah li Dawati wal Jihad. Donc à aucun moment ce mouvement n'est appelé Boko Haram, seulement par ses détracteurs ou seulement par les gens qui ont entendu les prêches de Youssouf et qui se rappellent de ce... Donc en Hausa, beaucoup, c'est le modèle occidental, et notamment le modèle éducatif occidental. Haram, c'est bon, péché. Donc c'était une phrase qui revenait beaucoup dans les prêches de Youssouf. D'ailleurs, c'était pas seulement beaucoup qui était haram, c'était aussi beaucoup d'Aiki government haram. On entendait beaucoup ça dans ses prêches, le modèle occidental, mais aussi travailler pour le gouvernement, c'est interdit. Et donc, par souci de raccourcir, on a commencé à appeler Mohamed Youssouf Boko Haram. Mais le mouvement n'a jamais reconnu ce nom, au contraire, l'a toujours rejeté. Et c'est ce que fait Chekaou quand il prend la relève. Il fait donc une première vidéo dans laquelle il explique que c'est lui maintenant le leader de Jama'at wal-Sunnah wal-Dawati wal-Jihad, et il veut se présenter comme le successeur légitime de Youssouf. Donc il va un petit peu adopter le même type de rhétorique, le même type d'argumentaire, et surtout il va jouer à fond la carte de l'imam, en fait, de la figure religieuse. Donc là, vous le voyez, ça, c'est pas la première vidéo, c'est la deuxième. Mais on est encore dans une posture très, très religieuse et très, très proche de ce que faisait Youssouf auparavant. Et d'ailleurs, le générique des premières vidéos le dit très clairement: nous ne sommes pas Boko Haram, nous sommes des musulmans al-Sunnah. Donc là, on revient encore aux références Isala ou Al-Sunna ou salafistes. En tout cas, il est hors de question pour eux de reconnaître cette appellation. Ils le disent très clairement. Donc là, dans cette première période, 2011-2012, le nouveau leader de Boko Haram s'inscrit vraiment dans la continuité de Youssouf. Et il s'exprime très calmement, sur un ton très régulier. Et il utilise... En revanche, il utilise l'esthétique djihadiste. Hein, vous voyez la Kalachnikov en fond d'écran. Ils utilisent aussi les anachides, le cheval, enfin des symboles djihadistes. Pourtant, il fait une brève allusion à Al-Qaïda dans son message initial en 2010, mais après, il n'en parle plus du tout. Il ne parle absolument pas des autres mouvements djihadistes. Alors, je suis obligée d'aller un petit peu vite. Donc, le début du, de la période Sheka où c'est vraiment une continuité. Ensuite, on est quand même là le mouvement s'est engagé dans un processus de lutte armée avec le gouvernement. Donc là, on n'est plus seulement dans de l'argumentaire religieux. On passe à partir de 2013 aussi à de l'argumentaire guerrier, puisque là, on est vraiment dans une situation d'insurrection armée, violente, avec des attaques régulières, très violentes. Chekaou va changer un peu de registre. Il va notamment utiliser les messages pour revendiquer les attaques, pour humilier le gouvernement nigérian, pour leur dire qu'il n'est pas mort, parce qu'il y a aussi tout ce jeu entre les autorités et Chekaou. Ils disent toujours qu'ils l'ont tué, donc il va réapparaître pour dire « je suis toujours là ». Là, les messages vont être plus seulement de la rhétorique religieuse avec des références à Youssouf et aux injustices vécues par les Nigérians, mais vont être aussi un outil de propagande, en fait. Ça devient de la propagande et ça devient un outil d'ascension dans la médiatisation, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est par exemple de voir que l'esthétique des vidéos, notamment ces références au djihad international ou la mise en scène un petit peu calquée sur les vidéos des autres groupes djihadistes, elle peut être en fait lue au niveau nigérian, parce que ça se manifeste par exemple des exhibitions d'armes, de véhicules, des démonstrations de tir. Et là, on voit, évidemment, le but, c'est de montrer que Boko Haram devient un groupe très puissant, qui se développe, qu'ils ont acquis une force de frappe importante, qu'ils ont une capacité d'action. Mais aussi, on voit qu'en fait, le matériel militaire dont ils disposent, c'est du matériel qui a été pris à l'armée pendant les attaques sur les casernes ou pris sur les postes de police. Mais en tout cas, c'est aussi une manière de dénoncer la faiblesse de l'armée et d'humilier le gouvernement nigérian. Et dans une des vidéos, Chekaou dit, voilà, tu vois les véhicules qui sont derrière moi. Je pense que je dois la voir quelque part par là. Il dit, voilà, les véhicules qui sont derrière moi, on vous les a enlevés parce que ce sont vos dieux. Parce qu'à vos yeux, ce sont des choses de valeur. Mais pour nous, ce ne sont que des charrettes. Nous, on s'en fout complètement de vos jeeps. Mais en tout cas, voilà vos jeeps derrière moi. On n'en veut pas. Nous, c'est juste pour vous frustrer quand on vous a pris vos jeeps. Donc c'est vraiment, on est encore dans le... Voilà, bon, on est dans la provocation et dans le sensationnel, mais ça prouve quand même que c'est quand même sur la bête qu'on se sert et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour avoir des armes et des munitions. Il suffit de tomber sur les casernes de l'armée nigériane. Donc voilà, j'avais plein d'autres extraits et je n'ai pas le temps de vous les lire. Ce que je voulais juste essayer de dire, c'est que l'analyse des discours, notamment celle du fondateur, donne une quantité d'informations sur la dimension politique et sociale et même parfois culturelle du mouvement. Alors, ça reste encore très difficile d'expliquer la persistance du mouvement et de comprendre les logiques de recrutement. Évidemment que l'aspect financier suffit pas, évidemment que les recrutements forcés, ça peut pas être uniquement le seul moyen de grossir les rangs. Et il y a quasiment autant de raisons de rejoindre le mouvement que d'hommes qui l'ont effectivement rejoint. Mais il semble quand même qu'il y ait une combinaison de facteurs qui sont étroitement liés au contexte social et politique du Nord Nigeria qui pèsent dans la persistance de ce mouvement. Et c'est pour ça que le concept de déradicalisation, selon moi et selon d'autres chercheurs, il n'est pas opérant dans le cas de Boko Haram. Et je pense qu'il n'est pas opérant dans beaucoup de cas de mouvements de ce type, puisqu'il prend en compte uniquement la dimension religieuse. Et qu'on voit bien à travers les discours et les messages, notamment des leaders de Boko Haram, que depuis le départ, la rhétorique, elle est avant tout politique et sociale. Voilà, je vous remercie.